Radio Okapi. Le journal Jocelyne Moussa Oponde.
Violence dans le Kasaï. L'ONU vient de désigner ses trois experts devant enquêter dans cette affaire. Occupation de plusieurs localités de Lubero par des Maïmaï. L'administrateur de ce territoire dans le Nord Kivu appelle à l'organisation d'un dialogue social afin de mettre fin à cette situation. L'invité de ce soir est Alexis Mutandangoy Moana, député national élu de la ville de Mbujimayi en 2011. Il va s'exprimer sur l'enrôlement des électeurs au Kasaï oriental. Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi pour vous informer. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé ce mercredi la nomination de trois experts internationaux sur la situation dans la région du Kasaï. La création de cette équipe d'experts internationaux sur le Kasaï a été mandatée en juin dernier par une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Joël Bofengo pour plus de détails.
L'équipe d'experts est constituée de Bakri Ndiaye du Sénégal, Luc Côté du Canada et Fatimata Mbaye de la Mauritanie. Bakri Ndiaye assumera les fonctions de président de cette équipe d'experts qui sont notamment chargés de collecter et préserver les informations et de déterminer les faits et les circonstances sur les allégations des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international dans la région du Kasaï. Depuis le mois de septembre de l'année passée, la région du Kasaï fait face à des violences meurtrières. Dans une résolution adoptée en juin dernier, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'était déclaré vivement préoccupé par les informations faisant état d'une vague de violences, des violations et d'abus graves et flagrants des droits de l'homme et des violations du droit international humanitaire dans cette région du centre de la RDC. L'ONU y a recensé une quarantaine de fosses communes. L'Église catholique a enregistré plus de 3000 morts.
2800 violations de droits humains ont été commises pendant le premier semestre de l'année 2017, a révélé à Kinshasa le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. José María Aranaz a donné ces chiffres ce mercredi au cours de la conférence des presse de l'ONU et a indiqué d'autres tendances de la situation de droits de l'homme en RDC qu'il a qualifiées de préoccupantes. Honoré Missenga Kalala pour les détails.
2800 violations des droits humains pour le bureau conjoint, ces chiffres sont supérieurs à ceux du premier semestre de 2016. Et de ces violations, la source fait part des 884 assassinats dans les territoires affectés par les conflits, 210 victimes des violences sexuelles, toujours dans les mêmes zones en conflit, et 430 violations liées à l'espace démocratique. Le bureau conjoint précise que les agents étatiques sont responsables de 58% de toutes ces violations, dont 25% attribués à ceux de la police nationale congolaise. Et dans ce tableau, 591 victimes d'exécution extrajudiciaire l'ont été par les agents de la police nationale congolaise, contre 527 par les forces armées de la RDC. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme salue néanmoins les efforts entrepris par les autorités congolaises pour combattre l'impunité au sein des forces de l'ordre du pays. 104 militaires FARDC et 20 éléments de la police nationale congolaise ont été condamnés pendant ce premier semestre à différentes peines pour violation des droits humains.
Et puis le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est dit préoccupé par la situation politique actuelle en République démocratique du Congo. D'après cette instance onusienne, cette situation est consécutive aux difficultés auxquelles se heurte la mise en œuvre de l'accord global et inclusif du 31 décembre à la dégradation des conditions de sécurité, en particulier dans la région du Kasaï, ainsi qu'à l'augmentation des violations de droits de l'homme, des atteintes à ces droits et aux violations du droit international humanitaire dans le pays. Thérèse Kankou-Tamboué.
Dans sa déclaration faite ce mercredi à New York, le Conseil des sécurités dit constater avec inquiétude la lenteur de progrès réalisée dans l'application de l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016. Il réaffirme que la mise en œuvre effective, rapide et opportune de l'accord est essentielle à un processus électoral crédible et à la paix et à la stabilité de la République démocratique du Congo, ainsi que pour appuyer la légitimité des institutions de transition. Selon le Conseil, l'accord de la Saint-Sylvestre offre une feuille de route réaliste pour la tenue d'élections pacifiques et démocratiques. Le Conseil souligne l'urgence de mettre en œuvre l'accord en toute bonne foi et dans son intégralité, afin que soit organisé comme convenu dans l'accord au plus tard en décembre 2017, des élections crédibles et inclusives devant permettre la passation pacifique du pouvoir conformément à la constitution congolaise. Par ailleurs, le Conseil de sécurité demande la publication rapide du calendrier électoral, ce qui clarifierait les délais et les étapes à venir et permettrait aux partenaires de mieux définir les types d'assistance à fournir. Malgré les difficultés budgétaires auxquelles la RDC fait face, le Conseil rappelle au gouvernement, conformément à la promesse faite par les autorités congolaises de financer les élections, qu'il est indispensable que les fonds promis à cette fin soient versés aux dates prévues afin que les opérations électorales se déroulent dans les délais fixés.
Par ailleurs, le Conseil réitère sa condamnation des actes de violence observés dans la région du Kasaï et se déclare vivement préoccupé par les violations de droits de l'homme. Le Conseil rappelle que le gouvernement congolais doit enquêter rapidement et de manière approfondie sur le meurtre de deux membres du groupe d'experts des Nations Unies et traduire ses responsables en justice. Et il demande au gouvernement congolais de coopérer aux fins des enquêtes menées par les entités des Nations Unies et de celles qui pourraient être menées par les services de police de la Suède et des États-Unis, conformément à la législation congolaise. Rendons-nous à présent dans la province du Tanganyika, conditions carcérales difficiles à la prison centrale de Manono. Nous sommes à 450 km sud-ouest de Kalemie. Deux cas de mort viennent d'être déplorés sur place. L'autorité territoriale parle de cas de maladie. Le regroupement des jeunes de Manono Rejma s'est organisé pour apporter une assistance. François-Xavier Mibé.
La sonnette d'alarme sur les conditions difficiles à la prison centrale est partie de la nouvelle société civile locale. Cette structure citoyenne a fait état d'une situation critique qui touche les pensionnaires dans la maison carcérale. La nouvelle société civile l'a fait savoir au cours d'une mission de la MONUSCO dans la zone. Une situation que déplore également le regroupement des jeunes de Manono, RGMA. Cette association a décidé même d'une assistance urgente pour les pensionnaires dont la majorité des détenus n'ont pas de famille sur place. Le secrétaire de RGMA, Dieu merci, Sim.
Il y a un nombre de 45, moustiquaires 45, et mes cas de farine de maïs aussi 45. C'est une façon de chercher aussi à solliciter les ONG pour venir aider nos amis qui souffrent en prison.
L'autorité territoriale qui regrette du décès de deux prévenus parle de cas de maladie survenus au cours de la période de leur détention. Pierre Mukamba.
Le chef du parquet nous a informé qu'il y a des morts là-bas. Nous avons supporté, nous en tant que responsables de l'entité. Ils étaient malades, ils ont violé tous les deux une femme.
La prison centrale de Manono est un ouvrage qui a été réhabilité en mars 2015, à la fois avec à 70% les financements de la MONUSCO, ceux de l'ex-province du Katanga et du Atser. Elle compte aujourd'hui 45 pensionnaires. Kalemie, François-Xavier Mbé, Radio Okapi.
Je le disais en titre, Nord Kivu, l'administrateur du territoire de Lubero, dénonce l'occupation depuis quelques jours de plusieurs localités de son entité par différentes factions Mai Mai, Mazembe et Nduma Defense of Congo, NDC. Selon Bokele Joy, ces groupes armés sont essentiellement constitués des jeunes de ces localités qui échappent désormais au contrôle de l'État. Il appelle à l'organisation d'un dialogue social entre toutes les couches de la société civile, les notables ainsi que les leaders politiques du territoire de Lubero pour mettre fin à cette situation. On écoute Bokele Joy, administrateur du territoire de Lubero, joint par Martial Papimukeba.
Il y a quelques localités qui sont notamment isolées puisque occupées par les groupes armés. Actuellement, dans le site de Lubero, si vous allez vers la partie Miriki, seulement vous ne pouvez pas y arriver à Miriki. En passant de Miriki, toute la zone-là est occupée par soit les MDC El Guidon ou soit par les Maïmaï Mazembe. Si vous venez vers Kassouo, et Kassouo également entre les mains de MDC, en passant par Fungula Macho, Katanga jusqu'à Maïba, là c'est toujours la zone occupée par les Maïmaï, Nduma. Vers Bulinda, vous verrez encore un autre groupe qui occupe là-bas. Vers Mangoujipa, vous trouverez également d'autres Maïmaï. Si nous allons vers l'est, ici à Bianze et à Tandole, il y a encore un groupe de Maïmaï, Nduluma, Kanyambi. On trouve encore d'autres groupes qui sèment la terreur, qui coupent la route. Nous devons savoir le pourquoi de l'existence de plusieurs groupes armés actuellement. Et pour savoir ça, il faut un dialogue. Il faut associer tout le monde, les notables, les leaders politiques, pour que nous puissions envisager des solutions.
Et nous venons de l'apprendre, Ntaberi Di Cheka, chef de la Nduma Defense of Congo, ce groupe de combattants Maïmaï, constitué depuis 2009 dans la région de Walikale, s'est rendu ce mercredi aux forces de la MONUSCO. L'annonce est de la force onusienne sur son compte Twitter. Ntabo Ntaberi est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. Il figure également sur la liste des personnalités congolaises soumises à des sanctions par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Beni. Ntabo Ntaberi Di Cheka a commis de graves violations du droit international en s'en prenant à des enfants, selon le Conseil de sécurité des Nations Unies. Plus de 57 000 nouveaux réfugiés centrafricains ont été identifiés par la Direction générale des migrations et la Commission nationale des réfugiés en juin dernier, selon les rapports mensuels du Haut Commissariat pour les réfugiés. Au nord-est et à l'est du pays, le HR constate aussi l'afflux d'autres réfugiés sud-soudanais et burundais. Les détails de la situation avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Selon les rapports mensuels du mois de juin, un peu plus de 57 000 nouveaux réfugiés centrafricains ont traversé la frontière, fuyant les violences dans leur pays. Ils ont été enregistrés en RDC par la Commission nationale pour les réfugiés et la Direction générale des migrations. Ces nouveaux réfugiés sont en majorité localisés dans la province du Nord Ubangi. Par ailleurs, la CNR a décidé les transferts de 74 demandeurs d'asile qui attendaient la régularisation de leur statut de réfugié du centre de transit de Batanga au camp de Boyabou. Au sud Kivu, au moins 30 000 réfugiés burundais vivent dans les camps de Lucenda, dont 61% sont des mineurs. 219 d'entre eux ont été relocalisés de Lucenda vers les sites de transit des Katungulu 1 et 2. 1280 réfugiés sud-soudanais ont été enregistrés pendant cette période, un peu moins qu'en mai et avril dernier. Enfin, il faut noter que sur les 236,2 millions de dollars attendus de bailleurs de fonds pour l'exercice de 2017, le HCR n'a reçu jusqu'en juin dernier que 38 millions, soit 16%.
Situation d'insécurité dans les territoires de Moba, caractérisée par des affrontements entre les communautés bantoues et pygmées. Les ressortissants de ce territoire vivant à Kinshasa, réunis dans l'association socioculturelle CEPROMA, cercle pour la promotion de Marungu avec leurs députés nationaux et sénateurs, toutes tendances confondues, demandent aux autorités du pays de faire appliquer les résolutions du Forum sur la paix et la réconciliation dans la province du Tanganyika en vue de retourner la paix dans cette province, tout en fustigeant en mort d'hommes et errance de la population occasionnée par ces violences, le CEPROMA appelle à l'assistance nationale et internationale en faveur des victimes. Écoutez à ce propos Jacques Kizabi, leur porte-parole au micro d'Inantan Linga.
Le CEPROMA relève que ces violences sont provoquées notamment par la non-mise en œuvre des résolutions du Forum sur la paix et la réconciliation dans la province du Tanganyika, organisée à Kalemie au mois de février 2017, dans le but de mettre fin au conflit entre les Bantous et les Pygmées. Le peu de considération de l'autorité coutumière dans la recherche des solutions au sein des communautés de base. Le déficit de communication entre l'autorité territoriale et la population. Les tracasseries policières, militaires et d'autres services de sécurité perpétrés sur les populations civiles. La multiplication des taxes et des frais de péage exorbitants imposés aux pauvres paysans. Le CEPROMA demande au gouvernement de la République de prendre des mesures d'urgence pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire de Moba en privilégiant la voie du dialogue entre les parties prenantes au conflit. Le CEPROMA sollicite enfin une assistance humanitaire d'urgence auprès du gouvernement de la République, auprès des ONG, des agences humanitaires, ainsi que des hommes et des femmes de bonne volonté pour venir en aide aux déplacés cantonnés dans plusieurs sites à travers le territoire de Moba.
Direction province de l'Équateur, le cadre de concertation de la société civile réunie en session extraordinaire hier mardi s'insurge contre les amendements apportés par la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Ces amendements concernent la proposition de la loi relative à la protection et responsabilité du défenseur de droits humains, mais les membres de cette société civile disent avoir constaté que l'Assemblée nationale tend à faire de cette proposition une loi plutôt répressive et liberticide. Suivez la déclaration du cadre de concertation de la société civile de l'Équateur, lue par Torombangi. Ses propos sont recueillis par Paul-Richard Malengela.
Nous, membres de coordination du cadre de concertation professionnelle de la société civile de l'Équateur, après analyse de la proposition faite par la Chambre haute du Parlement de la RDC, ainsi que les amendements apportés par la Commission politique, administrative, juridique et PAJ de la Chambre basse, avons malheureusement constaté que les amendements faits au niveau de la Commission PAJ vident cette proposition de tout son sens et font de la dite proposition une loi répressive, restrictive et liberticide que nous dénonçons avec la toute dernière énergie. Portons à la connaissance de la communauté tant nationale qu'internationale que nous nous joignons aux amendements déjà faits par les organisations de défense des droits de l'homme de la RDC, Nord-Kivu, ville et province de Kinshasa, à la proposition de loi portant régime de l'activité des Français des droits humains, ici de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Ainsi, demandons aux députés nationaux non mandataires de se déporter de la proposition de loi répressive, restrictive et liberticide formulée par la commission PAJ de notre chère Assemblée nationale et d'adhérer au bon sens et qu'il va de notre intérêt à nous tous. Nous insistons et persistons.
Dans le Congo central, la société civile santé s'est dit déterminée à faire du traitement gratuit du paludisme une réalité. Glory Panzou, président provincial de cette structure, l'a dit ce mercredi au cours d'un entretien avec Radio Capi. Pour Glory Panzou, il faut un plaidoyer et l'implication des autorités et des partenaires afin d'améliorer la santé de la population au Congo central. L'hygiène figure également parmi les combats que compte mener le président de la société civile santé du Congo central, Glory Panzou. Il est au micro de Guiroge Nyampala.
Nous savons que beaucoup de partenaires déboursent beaucoup d'argent pour que les soins de paludisme soient en tout cas gratuits, si pas à 90 ou 70% gratuits. Mais sur terrain, il nous semble que cette gratuité-là ne se vit pas. Et quand bien même il y a des coins où cette gratuité se vit, quelle est la qualité que la population peut attendre des soins qu'ils reçoivent contre le paludisme? Donc ça, c'est un sujet que nous avons réalisé dans notre plan d'action opérationnel, qu'il y a une conférence, il y aura un cahier de charge, il y aura un plaidoyer. Il y a également les problèmes de l'hygiène. Nous sommes sans ignorer que notre pays, en tout cas, connaît un sérieux problème de l'hygiène. Et nous voulons interpeller les autorités, nous voulons interpeller les partenaires qui accompagnent nos autorités dans leur mission de garantir la santé. L'hygiène sur les sites publics, l'hygiène dans nos parcelles, l'hygiène dans les lieux de commerce. Nous voulons également réfléchir pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour l'intérêt de la communauté.
Actualité Afrique Monde.
Un hélicoptère de la mission des Nations Unies au Mali s'est écrasé accidentellement ce mercredi dans le nord du pays, a indiqué un responsable de la MINUSMA à Gao, sans donner de bilan. Pour nous, c'est un accident. Pour le bilan, nous allons communiquer plus tard, a ajouté ce responsable qui a requis l'anonymat, tout en soulignant que rien ne permettait à ce stade de dire que l'appareil a été abattu. Les corps de 25 personnes, dont 17 d'une même famille, ont été retrouvés lors du reflux des eaux qui ont inondé leur village dans l'état du Gujarat, où les pluies torrentielles de la mousson ont fait presque 120 morts. Nous sommes en Inde. Il semble que ces personnes se sont noyées. Les corps ont été retrouvés enterrés dans la boue. La seconde partie de ce journal nous conduit à Kisangani. 67 dossiers relatifs aux violences sexuelles ont été traités au cours du premier semestre de cette année par le tribunal pour enfants. Ces statistiques viennent d'être publiées au cours de la réunion du comité provincial de suivi de la justice pour mineurs, une réunion des différents partenaires impliqués dans la promotion des droits de l'enfant et présidée par le premier président de la cour d'appel de Kisangani. Quelles sont les mesures prises à l'encontre des auteurs de ces crimes et comment prévenir ces cas? Des précisions dans ce dossier que nous propose Dorcas Kankou.
Cette réunion est une occasion pour ces différents acteurs impliqués dans la promotion des droits de l'enfant d'évaluer la situation de celui-ci dans la région. Le président du tribunal pour enfants, Fidel Mouya, a indiqué que son institution a traité 67 cas de violences sexuelles au cours du premier semestre de l'année en cours.
On y trouve le cas de viol proprement dit. L'auteur est mineur, la victime également mineure. Et le cas de tentative de viol, aussi le cas d'harcèlement sexuel. Les dossiers ont été traités, les auteurs ont été jugés et les victimes entendues. Les mesures ont été prises. Il y en a qui, pour ces faits qui se sont avérés plus ou moins graves, ont dû être placés dans l'établissement de garde et d'éducation de l'État. C'est la mesure la plus forte. Mais il y en a qui ont été reconnus coupables, mais réprimandés et confiés à leurs responsables, tuteurs ou parents, avec injonction de mieux les surveiller dans l'avenir. Il y en a aussi qui ont été trouvés carrément non coupables, relaxés.
Parmi les victimes, près d'une dizaine sont tombées enceintes. Le travail abattu par la justice est apprécié par d'autres acteurs du domaine. Symphorien Colo, du consortium des ONG, ONG pour la protection de l'enfant et de la femme, CODEF, explique qu'ils connaissent des difficultés du côté de la prise en charge médicale de victimes.
C'est un travail excellent. D'ailleurs, au-delà de ces nombres, il y en a encore d'autres et qui ne sont même pas passés par les tribunaux, par le fait qu'ils ont été découragés parce qu'ils ne sont pas en mesure peut-être de supporter les coûts. Tu vois, par exemple, au tribunal, ils doivent se déplacer, il y a les coûts de transport, tout ça. Par rapport au volet médical, nous travaillons en partenariat avec certaines structures médicales. Nous référons les cas. Les cas qui arrivent dans moins de 112 heures, ils sont pris en charge normalement parce qu'ils bénéficient des kits PEP. Mais pour d'autres cas, ayant déjà dépassé les 112 heures, on éprouve encore des graves difficultés. Pourquoi ? Parce que jusque là, depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu vraiment un appui financier.
Quelles sont les causes à la base de ces cas de violence sexuelle ? Écoutons une fois de plus Fidèle Mouya, président du tribunal pour enfants.
La première cause, c'est l'ignorance de la loi. Parce que la plupart d'enfants ont trouvé l'acte sexuel comme étant un acte normal, sans tabou, et peut-être non informé que c'est répréhensible, que la loi soit portée à la connaissance de tout le monde pour qu'informé, il puisse prendre des précautions et éviter ce genre de choses. La deuxième cause qui est l'irresponsabilité parfois des parents qui ne savent pas bien prendre leurs enfants en charge. Prenez le cas d'un parent qui a plusieurs ménages, qui ne sait pas les surveiller tous. À la fois pendant qu'il est à Kabondo, les enfants qui sont dans son foyer de Mangobo se livrent à n'importe quoi. En fait, les causes sont multiples et la coutume aussi, mais aussi la précarité de la vie, la pauvreté.
Rappelons que la mise en place de ce comité provincial de suivi de la justice pour mineurs est l'initiative de l'UNICEF. Celui-ci appuie également le fonctionnement du tribunal pour enfants. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
L'invité.
L'invité de Radio Okapi ce soir est Alexis Mutandangoi Mwana, député national élu de la ville de Mbujimayi en 2011. Il parle de l'organisation d'enrôlement des électeurs au Kasaï oriental et fait également le bilan de 57 ans d'indépendance de la RDC avant de chuter sur les élections prévues fin 2017 et qu'il estime hypothétiques, suivant cet entretien réalisé par Chris Mukonde.
Honorable, vous séjournez en Mbujimayi. Je vous pose la question de savoir ce que vous faites là.
Je suis venu premièrement pour me faire enrôler, parce que vous savez que l'enrôlement est en train de toucher à sa fin. Et étant dans ma ville électorale, j'en ai profité bien sûr pour prendre contact avec, je dirais, un peu toutes les couches de la population, parce que c'est quand même eux qui m'ont élu en 2011, donc je leur fais l'honneur de les rencontrer à fur et à mesure qu'ils viennent me voir.
Vous vous êtes enrôlé, vous avez mis votre attention sur le déroulement de cette opération. Quelle est votre appréciation?
Je dirais que les bureaux d'enrôlement sont pratiquement désertés parce que je pense que beaucoup de gens se sont enrôlés au début de l'opération. Je suis très content évidemment d'apprendre que beaucoup de personnes, disons, se sont enrôlées. Je suis venu dans cette ville et surtout dans cette province pour faire connaître l'association des amis d'Alexis Mutanda, ADAM. Vous savez, avec la date du 30 juin 2017 que nous avons vécu le mois passé, eh bien, ça nous a donné beaucoup d'idées, beaucoup de pensées. Étant donné qu'un pays grand comme le Congo, nous devons faire quand même le bilan de notre période de souveraineté nationale depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et le constat, évidemment, de presque tout le monde, de tout le monde d'ailleurs, est que nous traversons aujourd'hui pratiquement une crise nationale de grande envergure. Parce que quand on regarde la population, eh bien, l'insécurité est pratiquement générale à travers le pays. Vous connaissez très bien le phénomène Kamuina Nsapu au Kasaï, avec toutes les tueries, les fosses communes, les réfugiés qui partent un peu partout en Angola par exemple, l'insécurité à l'est du pays, au Kivu spécialement, les Mbororo qui se trouvent dans la province orientale. Eh bien, sur le plan du travail, eh bien, c'est le chômage qui est généralisé à travers le pays. Et lorsque j'arrive dans la ville comme Mbujimayi, c'est une véritable catastrophe humaine. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, n'en parlons pas. La pauvreté, on la lit sur tous les visages. Les gens mangent très rarement. L'économie du pays, évidemment, est complètement par terre. Et aujourd'hui, vous le savez, avec la crise de la dépréciation de la monnaie, aujourd'hui le dollar se change à 1 700 francs. Eh bien, c'est une véritable catastrophe. La jeunesse est complètement abandonnée à elle-même. Vous savez, quelle est la qualité de notre enseignement? Combien des enfants peuvent fréquenter l'école à cause du pouvoir d'achat des parents qui est déplorable? Et vous savez également que cette jeunesse, par manque de travail, étant devenue désœuvrée, cette jeunesse, se penche de plus en plus vers l'alcool, vers la drogue, vers le chanvre, etc. Et on est en train de perdre complètement l'avenir de notre pays si nous perdons également notre jeunesse. Étant donné que nos autorités sont apparemment pas très préoccupées pour résoudre tous ces problèmes, nous pensons que le peuple doit se prendre en charge et qu'il est le véritable propriétaire de toutes les richesses, aussi bien des richesses minières que des autres agricoles, etc. Il y a 20 ans, avec la société Miba, la vie était rayonnante à Mbujimayi. Mais avec cette société qui est maintenant devenue pratiquement un canard boiteux, qui fonctionne à peine, et la pauvreté, vous la lisez sur tous les visages.
Vous voyez les élections être organisées avant décembre 2017.
Tout le monde a demandé que les élections puissent être organisées en décembre 2017. Nous n'arrivons pas à comprendre, parce que le 31 décembre, les accords de Saint-Sylvestre, comme on les appelle, et ils ont tous signé, aussi bien les gens de la majorité que les gens de l'opposition, que les élections devaient se tenir, évidemment, avant décembre. Et on entend maintenant de plus en plus de rumeurs que les élections ne pourraient pas être organisées en décembre. Moi, je crois personnellement que c'était à prévoir, parce que ce qu'ils ont signé en décembre, c'était tout simplement pour endormir le peuple congolais, et surtout endormir l'opposition. Ils nous ont dit que ces élections devaient coûter plus de 1 milliard de dollars. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas cet argent. Ils disent qu'ils n'ont pas encore cet argent. Entre-temps, on a semé de l'insécurité à travers le pays, spécialement dans les deux Kassai.
Honorable Alexis Mutanda Ngoimwana, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Okapi Sport.
Avec nous dans ce studio, Nana Mbala pour l'actualité sportive. Bonsoir Nana.
Bonsoir Jocelyne Moussa Mpondé, bonsoir amis sportifs. Nous commençons par le jeu de la francophonie Abidjan 2017. Constant Ikomombo a été éliminé dès le premier tour en judo chez les moins de 73 kilos chez les messieurs par le Kosovar Akile Djakova. En athlétisme, 5000 mètres dames Rita Toumaini a terminé en 7e position avec un chrono de 17 minutes 36 secondes 40 centièmes, loin derrière la Marocaine Soukaina Atanane qui a réalisé 16 minutes. En cyclisme sur route, la RDC alignera 7 athlètes demain jeudi. Il s'agit de Longomo Lamama, Daniel Kinanira, Jonathan Lianza, Gianni Maele, Glody Minimbu, Jimmy Moindo et Kamena Wachiana qui espèrent une médaille pour le pays. Demain, nous l'écoutons.
Oui, pour demain, ça sera trop dur, mais nous allons essayer de nous accrocher. La population congolaise attend de nous, j'espère une médaille. Nous sommes bien préparés et nous avons fait bien notre préparation avec notre coach. Ce n'est pas la première fois qu'on vient de faire une course pareille. Nous avons couru le tour du Congo avec d'autres qui sont plus meilleurs qu'eux.
La course, nous vous rappelons, sera longue de 134 kilomètres. Tandis qu'en football, 25 minutes de jeu déjà entre les Léopards et les Bleus français, 0-0 au stade Robert Champroux. Victoire impérative pour le poulain d'Éric Tchibassou pour poursuivre donc l'aventure ivoirienne. Ici au pays, dans un communiqué publié aujourd'hui, la Linafoot rappelle à tous les clubs ayant pris part dans son championnat, c'est-à-dire la 22e édition du championnat national 2016-2017, qui est la date limite pour la tenue de leur assemblée générale ordinaire est fixée à ce lundi 31 juillet et que tout club qui ne se conformera pas à cette directive en tirera les conséquences qui s'imposent. On change de discipline pour parler de la Coupe du Congo de handball qui se déroule ici dans la ville province de Kinshasa. Il y a eu aujourd'hui au-delà des 10 rencontres, mais nous allons vous donner quelques résultats tels que Oka qui a dominé JCL 20-19, Betonabeto contre Héritage 11-64, Evabuka contre Jeski 32-27, JSK contre Kinsport 31-21. Et le programme de demain, on aura, puisque la compétition se joue dans deux stades, d'abord au stade Atarafayel chez les dames, DSMP jouera Evabuka, Police contre FT, Roué contre Héritage, Scorpion contre Oka et au Stade de Martyrs, 3 rencontres. Kingsport sera face à Loja, JSK contre JSK, Betonabeto contre JSL. Et puis cette information avec nos internationaux, c'est le 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions UEFA. Junior Kabananga a réussi le premier de 3 buts de son équipe cet après-midi, FC Astana face à la formation polonaise des Legia Varsovie. Score final 3-1. Et en ce moment, on se joue le match qui oppose donc Dynamo Kiev contre Young Boys. Et Dieu merci, Mbokani a déjà marqué le 2e but de Dynamo Kiev dont la rencontre se joue encore. 2-0 pour l'équipe de Dieu merci, Mbokani.
Merci Nana Mbala. On va terminer avec le cours de change. Un dollar américain s'achète aujourd'hui à 1593 francs congolais et se vend à 1658 francs congolais selon le taux de la Banque centrale du Congo. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.